Alors, accueillons Justine Mangea, postdoctorante au Labo X au Commode, à Lyon, où elle a préparé un essai sur l'indignation au temps de la lumière. Elle a soutenu en 2022 une thèse consacrée aux tragédies de Voltaire, dans laquelle elle s'est intéressée aux caractéristiques des pièces militantes participant au combat de lumière. Ses travaux universitaires portent sur Voltaire, sous le mouvement des Lumières, mais aussi sur les femmes de lettres du XVIIIe siècle. Martine Ominarowicz, membre du club de l'équipe de la correction de la revue Fragment, est bibliothécaire de jeunesse à la retraite. Pour ce colloque, elle nous propose une lecture croisée de deux ouvrages portant sur la période révolutionnaire dans une conférence intitulée L'histoire et la légende, les mouchoirs rouges de Cholet et 1793, l'insurrection vendéenne et les malentendus de la liberté.
Merci. Alors je remercie les organisateurs et organisatrices. Je suis très heureuse et fière de participer à ce colloque devant un public nombreux, ça change des colloques universitaires. Et puis, c'est inestimable de parler devant des camarades, des collègues, des amis et puis des membres de ma famille aussi. Je remercie aussi Martine, qui a accepté le principe de cette conférence-lecture à deux voix et qui, de sa belle voix de conteuse, va vous faire entendre les textes de Michel Ragon. Alors, j'avais initialement envisagé de parler de la mémoire des vaincus, que mon père m'a fait lire quand j'étais à peine ado, qui était une lecture décisive, comme pour beaucoup de gens, me suis-je rendu compte plus tard. Lorsque Thierry Maricourt m'a contactée, par l'entremise de Sarah Almatari, pour intervenir dans ce colloque, j'ai proposé plusieurs sujets possibles, dont l'un sur un ouvrage de Michel Ragon que je venais de lire, qui m'avait fascinée et déroutée en même temps, « Les mouchoirs rouges de Cholet ». J'avais eu l'impression d'y lire la rencontre improbable de mes deux héritages familiaux, du côté paternel, un héritage politique, militant, plus ou moins confortable entre des grands-parents communistes et un père un peu anard. Et du côté maternel, un héritage rural chez les prolétaires pyrénéens. Deux mondes qui ont bien dû finir par s'entendre puisque je me tiens devant vous, mais dans lesquels je peine parfois à deviner une histoire commune. Et il me semble qu'elle est dans les mouchoirs rouges de Cholet. Donc c'est vers cette proposition sur les mouchoirs rouges de Cholet que je penchais, pour des raisons aussi de cohérence avec mon statut universitaire, puisque je suis spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle, plutôt du théâtre et de la philosophie des Lumières que de la période révolutionnaire, qui sert de fond historique aux mouchoirs. Mais je me suis dit que mon institution de rattachement serait moins déconcertée si j'intervenais dans ce colloque sur un sujet relativement proche de mes sujets d'études. Roman historique publié en 1984, Les mouchoirs rouges de Cholet sont un des premiers vrais romans que Michel Ragon publie comme un défi à tous ceux qui lui reprochaient d'avoir écrit de l'autofiction dans L'accent de ma mère et Ma sœur aux yeux d'Asie. Michel Ragon poursuit son exploration par l'écriture de sa Vendée natale selon un projet littéraire qui relève, comme il le dit dans J'en ai connu des équipages, de la provocation. Je vais écrire, sans aucune concession à la vérité ethnographique et historique, un roman populaire dans la lignée des grands romans du XIXe siècle. Ses modèles sont Victor Hugo, dans 93, Jacou le Croquant, mais aussi La Nouvelle Histoire. On rencontre dans cette œuvre une tension ou une exigence entre une dimension romanesque et une documentation historique rigoureuse et inédite, afin de rendre compte de la vie paysanne depuis la fin du XVIIIe siècle, des conditions de vie de ces paysans, je le cite, sans histoire, restés sur les bas-côtés de la grande histoire. C'est donc à une forme de micro-histoire que s'essaye Michel Ragon, à hauteur d'homme, mais sans que son ouvrage soit une étude historique. Les mouchoirs rouges de Cholet relèvent de la fiction romanesque, je le cite encore, avec des personnages et des coups de théâtre. Qualifié par l'auteur de roman historique ou ethnographique, je me suis demandé dans quelle mesure cet ouvrage n'aurait pas pu être hâtivement classé parmi la littérature du terroir. Toutes les caractéristiques y sont en effet. La dimension historique, puisque le roman a pour cadre le bocage vendéen entre 1796 et 1820, la description des mœurs paysannes et des pratiques agricoles locales, l'attention portée à la cellule familiale, enfin la place centrale des croyances populaire et de l'Église, même si la religion catholique est, on le verra, matinée de légendes et de superstitions. Les ingrédients semblent donc réunis pour composer un roman du terroir qui est aujourd'hui l'un des genres littéraires les plus vendeurs, mais qui est aussi par bien des aspects assez conservateur. Et de fait, les mouchoirs rouges de Cholet sont un succès de librairie. Alors, je vous renvoie pour le contexte d'écriture et de publication aux pages éclairantes d'André Derval dans la biographie qui vient de paraître. Je reprends le chiffre signalé par l'auteur, 230 000 exemplaires vendus aux éditions Albin Michel. Et les mouchoirs rouges de Cholet ont été récompensés par plusieurs prix littéraires. La Bourse Goncourt du récit historique, Grand Prix des lectrices de Elle, Prix de l'Académie de Bretagne, Prix Alexandre Dumas. Michel Ragon obtient donc par cette publication la reconnaissance littéraire qu'il espérait et qui va lancer tout un cycle romanesque prenant pour cadre la Vendée dont Claire nous a parlé tout à l'heure. Mais son intérêt pour la Vendée ne se limite pas aux romans historiques. À l'approche du bicentenaire de l'insurrection vendéenne, et alors que depuis la fin des années 80, les historiens s'étripent pour savoir si les massacres des Vendéens en 93 sont un génocide, une extermination ou le résultat d'une guerre civile, Michel Ragon entre dans l'arène en publiant en 1992, chez Albin Michel, un beau livre, massif, je vous montre, voilà, richement illustré, intitulé 1793, l'insurrection vendéenne et les malentendus de la liberté. Alors, pour moi, qui suis née en banlieue parisienne, à la fin des années 90, au début des années 90, j'ai voulu me rajeunir, j'avais jusqu'à récemment une vision très partielle et partiale des guerres de Vendée. Une vision conditionnée par les sorties médiatiques de l'inénarrable Philippe de Villiers, et une vision conditionnée aussi par le film, par le tollé suscité par le film qui est sorti de début 2023, un film produit par le Puy du Fou et par Bolloré, sur la guerre de Vendée. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est « Vaincre ou périr ». Donc c'est un film épique consacré au général Charette, héros vendéen, commandant l'armée catholique et royale. Donc c'est un film produit par la droite identitaire, un film de propagande qui a réactivé les débats autour de l'héritage vendéen. Pour le dire vite, j'estimais, comme beaucoup, que la Vendée contre-révolutionnaire, monarchiste et catholique appartenait à l'histoire de la droite réactionnaire. Qu'allait donc faire Michel Ragon dans cette galère ? Alors l'ambition de cet ouvrage historique que je ne vous remontre pas, que je ferai passer après, qui est un ouvrage destiné au grand public, est clairement explicitée dans un long prologue où Michel Ragon rend compte des débats historiographiques relatifs à cet héritage sanglant de la Révolution. Il retrace les différentes interprétations qui ont été données de l'événement et surtout les différentes théories qui ont cherché à expliquer les raisons de l'insurrection vendéenne, des théories du complot essentiellement. La thèse à laquelle Michel Ragon souscrit, qu'il veut mettre en valeur par cette publication, c'est celle d'une insurrection populaire, à la fois spontanée et trouvant ses sources dans une succession de mesures révolutionnaires perçues comme iniques, émanant de bourgeois des villes pour opprimer injustement des paysans. Je ne rentre pas dans le détail de l'ouvrage, dont vous entendrez quelques extraits lus par Martine dans quelques minutes. Je me contente de citer Michel Ragon lui-même, dans « J'en ai connu des équipages ». Il y inscrit son analyse de l'insurrection vendéenne dans une double perspective politique. Je le cite, « Mon analyse procède un peu du marxisme, par l'attention à la lutte des classes, et beaucoup de la philosophie libertaire. » Ouf, Michel Ragon n'a pas viré royaliste. Alors avant la récupération de la Vendée par l'extrême droite, Michel Ragon, comme d'autres historiens à la même période, proposait une autre lecture politique de l'insurrection vendéenne. C'est cette lecture qu'il détaille dans 93, en suivant au jour le jour les événements de cette année terrible, à la fois au sein de la Convention à Paris et dans l'armée insurrectionnelle en Vendée. Là encore, comme dans les mouchoirs rouges de Cholet, c'est une histoire à hauteur d'hommes et de femmes que Michel Ragon propose. Et j'insiste sur ce point, car contre les discours misogynes ultra prégnants dans la tradition historique, Michel Ragon apporte une attention particulière à la participation des femmes à l'insurrection. Comme dans les mouchoirs rouges de Cholet, la grande histoire est au cœur de son écriture, mais s'il détaille les principaux événements historiques de cette année 1793, ce n'est que pour envisager leurs conséquences, leurs effets concrets sur les acteurs et actrices de cette insurrection, sur les individus pris dans la machine infernale de l'histoire. Cette écriture historique, qui porte la focale sur les vies minuscules, sur les bas-côtés de l'histoire nationale, était déjà à l'œuvre 10 ans plus tôt dans les mouchoirs rouges de Cholet. là aussi, il s'agissait de comprendre l'insurrection, la révolte, dans sa dimension populaire, tout en brossant une vue d'ensemble de la vie paysanne vendéenne, où la dimension ethnographique n'exclut pas le récit des croyances, des mythes, des légendes qui donnent corps à une identité régionale. Tout cela, Michel Ragon le résume dans une formule qui lui est chère et qui est une réécriture inversée d'une maxime de Victor Hugo dans son dernier roman 93. Donc je cite Hugo. La Vendée ne peut être complètement expliquée que si la légende complète l'histoire. Il faut l'histoire pour l'ensemble et la légende pour le détail. Ou plutôt, répond Michel Ragon, l'histoire pour le détail et la légende pour l'ensemble. Michel Ragon renverse ainsi la perspective dans les dernières lignes de son ouvrage historique sur 93. Et il nous livre un principe d'écriture historique qu'il me semble stimulant de garder à l'esprit pour proposer une lecture des Mouchoirs rouges de Cholet. Roman paysan, avant d'être un roman historique, mais aussi roman politique, libertaire, habité par l'aspiration à la liberté, tout en étant conscient et inquiet des malentendus, des dévoiements, des compromissions qui guettent les militants. On retrouve ainsi, dès les Mouchoirs rouges de Cholet, une forme de pessimisme historique et politique, à l'œuvre également dans la mémoire des vaincus, mais que Michel Ragon conjure au terme de ce récit populaire sur les bocages vendéens. Dans cette perspective, nous allons maintenant vous proposer un parcours croisé dans ces deux œuvres, dont Martine va lire des extraits choisis, et que je tâcherai de présenter et de commenter succinctement. Écoutons, pour commencer, les premières lignes du roman, du Mouchoir rouge de Cholet, qui présente le personnage principal de l'histoire, Dauchagne, vendéen insurgé, réfugié dans le creux d'un chêne pour échapper aux colonnes infernales de Thureau, qui massacre et ravage la Vendée. C'est ainsi que la légende commence.
Il était une fois un chêne, un gros vieux chêne, et dans le tronc de ce chêne se tenait mussé un homme, si parfaitement intégré à l'arbre, dont il avait d'ailleurs pris la couleur grise, si incrusté dans le creux du bois, souvenir d'une déchirure d'orage, que personne n'eût imaginé que ses membres, qui parfois se détachaient du tronc pour se désengourdir, eussent pu appartenir à une autre espèce que végétale. Au cours des semaines, des mois, des années que dura la grande désolation du bocage, il s'était identifié à l'arbre. Devenu chêne, il le restera toute sa vie, puisque, réintégré dans le monde des hommes, et ne se souvenant plus de son nom, peut-être n'en ayant jamais eu, il sera appelé Duchesne, ou plutôt Dauchagne, avec l'accent du pays. Homme couleur de mousse et d'écorce, nourri de glands, de champignons crus, de jeunes pousses de fougères, homme sans âge, sec, le visage encroûté de terre et les cheveux blancs. Tout le temps que Dauchagne entendit au loin le piétinement des troupes en marche, les galops des chevaux, les charrois des caravanes qui emportaient vers Paris le produit des pillages, tout le temps que des coups de fusil et de canon déchirèrent le silence, que des hurlements témoignèrent des massacres continués, il resta dans son chêne, engourdi, n'ayant plus dans sa somnolence la sensation de la durée. Un jour, il se crut mort, car le silence devint total. Rien, pas un chant d'oiseau, pas un bruissement de bêtes dans les fourrés, pas de tambours au loin, rien. Le silence absolu, le vide. Dauchagne se crut mort et il fut bien content.
Comme tout bon récit légendaire et populaire, les Mouchoirs rouges de Cholet commencent donc par « Il était une fois ». Et ils mettent en scène un héros faillible sur la brèche, mais aussi un peu mythologique, peut-être un être un peu magique. En l'occurrence, Dauchagne appartiendrait à la légende familiale de Michel Ragon, dont un ancêtre aurait lui aussi trouvé refuge dans un arbre pendant le saccage de la Vendée. Le récit débute vers 1796, après l'armistice signé en mai 1795 et les derniers soubresauts de la guerre de Vendée. J'en rappelle les grandes lignes. En mars 1793, des émeutes paysannes éclatent dans toute la France révolutionnaire. mais dans la région qui regroupe les provinces du Poitou, de la Bretagne et de l'Anjou, ce que les administrateurs de la Révolution vont appeler la Vendée, qu'ils inventent à cette occasion. Et bien dans cette région, l'insurrection s'organise et prend une ampleur inattendue. Les paysans vont chercher les nobles dans leurs châteaux et les poussent à prendre le commandement des bataillons, même si certains bataillons sont aussi dirigés par des généraux issus du peuple. De mars à août 1793, les Vendéens remportent plusieurs victoires, repoussent les Républicains, reprennent le contrôle de leur territoire. Mais à partir de septembre-octobre 1993 et des combats autour de la ville de Cholet, les Vendéens reculent, traversent la Loire avec des milliers de blessés, remontent vers la Normandie, mais connaissent de terribles défaites au Mans puis à Savenay. C'est ce qu'on appelle la virée de Galerne, en référence au vent de Galerne qui souffle dans l'ouest de la France. À partir de janvier 1794, la répression s'organise et est notamment confiée au général Thureau, qui met en place ce que lui-même appelle des colonnes infernales, des troupes mobiles qui vont massacrer les insurgés et les populations civiles, piller les villages, rafler les grains, dévaster le pays, jusqu'à la paix de mai 1795, qui met officiellement fin à la guerre de Vendée. Lorsque Dauchagne, qui n'est donc pas mort au début du récit, lorsque Dauchagne s'extirpe de son chêne, il découvre le bocage ravagé.
Le premier village qu'il rencontra était absolument désert. Toutes les maisons avaient été incendiées. Seul restait debout le clocher en pierre de l'église. À l'intérieur, des cadavres, en partie brûlés, s'amoncelaient. Dauchagne alla plus loin. C'était Gomorre, en effet. Dans les champs, sur les chemins, il butait partout sur des corps inertes, hommes, femmes, enfants, certains squelettiques, aux chairs déjà déchiquetées par les corbeaux. Dans le village suivant, partiellement incendié, les cadavres de femmes et d'enfants aux crânes défoncés à coups de crosse s'alignaient sur deux rangs dans la rue centrale, la plupart nus. Des vipères rampaient entre les corps. Dauchagne les chassa à coups de cailloux. Puis il continua à marcher droit devant lui, dans un pays qu'il ne reconnaissait plus, sans rencontrer âme qui vive, un étrange pays, sans arbres, ni haies, pelé, noir de fumée, sans bœufs, sans moutons, sans chiens.
Si certains ou certaines connaissent la chanson de Théodore Botrel, Le mouchoir rouge de Cholet, qui date de 1897 et dont le titre du roman est inspiré, vous voyez qu'on est loin ici de la vision fantasmée de la révolte vendéenne menée par Charette qui prendrait pour symbole un mouchoir rouge. Michel Ragon déjoue les attentes du lectorat en ne livrant pas un récit épique, glorieux, de la guerre de Vendée. Ce qu'il décrit, c'est un massacre, une dévastation, l'horreur après l'enfer. Comme je le disais en introduction, la qualification des horreurs perpétrées pendant ce conflit a fait l'objet de débats chez les historiens. En 1985, donc au moment de la parution des mouchoirs, Reynald Secher milite pour faire reconnaître le massacre des Vendéens comme un génocide, thèse à laquelle Michel Ragon semble avoir un temps été sensible. D'autres préfèrent parler de massacre, ou de crimes de guerre, ou de guerre civile. Autant de débats sémantiques qui nous sont assez familiers à l'heure des massacres génocidaires à Gaza. Cependant, la thèse du génocide vendéen a été écartée en même temps que se précisait la définition du génocide. Pour faire court, la désorganisation de l'État révolutionnaire ne permet pas de voir dans la répression républicaine la mise en œuvre de moyens techniques et d'une logique productiviste au service d'un plan général d'extermination d'une population. C'est la définition qui prévaut désormais. Du génocide. Il n'en reste pas moins que le bilan humain est terrible, même si les chiffres exacts sont difficiles à établir. Un consensus émerge aujourd'hui, à peu près, autour d'une estimation à 200 000 morts au total, soit 50% des morts de la Révolution. La Vendée aurait perdu 20 à 30% de sa population entre mars 1793 et mai 1795. En 3 ans, 95% des maisons auraient été rasées, 20 à 45 000 réfugiés auraient quitté la Vendée, 60 à 120 000 soldats républicains auraient été mobilisés, sans compter les milliers de viols commis sur les femmes vendéennes. La guerre de Vendée a tout de la sale guerre, de la guerre fratricide, rendue possible par la faiblesse d'un État central qui s'affermit et se fonde sur ce massacre originel. Mais au-delà de cette comptabilité morbide et de ses conséquences politiques, ce qui a intéressé les historiens, ce sont d'abord les causes de l'insurrection. Pourquoi le peuple se révolte ? Au nom de quoi ? Par quels moyens a-t-il réussi, dans un premier temps, à mettre l'armée républicaine en déroute ? Les révolutionnaires ne s'expliquent pas cette insurrection du peuple contre le gouvernement révolutionnaire. C'est pourquoi ils seront implacables dans la répression. Un nouveau mythe émerge alors, celui de l'inexplicable Vendée, de la Vendée arriérée, barbare, fanatique. C'est contre cette vision que se dresse Michel Ragon dans l'insurrection vendéenne ou les malentendus de la liberté, dont Martine va vous lire un extrait.
Les historiens se sont longtemps égarés en recherchant une cause unique à l'insurrection vendéenne, une conjuration où se seraient trouvés unis le noble, le prêtre et l'étranger. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'historiographie moderne a abandonné ce raisonnement commode. Ce que nous cherchons aujourd'hui à comprendre, c'est plutôt la texture d'une insurrection dont nous savons bien qu'elle fut foncièrement d'inspiration populaire, même si la noblesse et le clergé la récupèrent tardivement, même si elle devint, au XIXe siècle, le prétexte de la nostalgie pour l'Ancien Régime. Or, la Vendée, comme la Bretagne, accueillit avec faveur la Révolution de 1789. En Vendée comme partout ailleurs, 1789 fut un grand espoir. 1789 fut l'année de l'utopie. L'inexplicable Vendée dont parle Barrère n'est inexplicable aux révolutionnaires parisiens que parce qu'ils ignoraient tout, en bourgeois citadins qu'ils étaient, de la mentalité paysanne et qu'ils n'attachèrent aucune importance aux signes avant-coureurs de la rébellion. Par rapport au début de la Révolution, l'insurrection vendéenne est assez tardive. Trop tardive pour que la fin de l'Ancien Régime ou sa nostalgie en soit le motif. Les Vendéens ont-ils été froissés en juillet 1791 par la constitution civile du clergé et par le serment imposé aux prêtres ? Il ne semble pas. Par contre, qu'on leur enlève plus tard par la force leurs bons prêtres les indigne. Ne sont-ils pas villageois comme eux ? Ne veut-on pas les remplacer par des curés venus des villes et qu'ils considèrent à juste titre comme des intrus ? Néanmoins, les Vendéens ne bronchent pas, se contentant de bouder les intrus. Ils ne bronchent pas quand les nobles émigrent. Ils ne bronchent pas quand Louis XVI est guillotiné en janvier 1793. La perte du curé de leur village leur étant certainement beaucoup plus sensible que celle d'un roi bien lointain et dont ils ignorent tout. Seulement, a-t-on réfléchi que, pour la population rurale d'alors, l'État disparaissait si le roi qu'il incarnait n'existait plus ? Le roi mort, la population rurale retrouve ses instincts d'autonomie, d'anarchisme fondamental. Elle se sent dégagée de la tutelle étatique, libre de ses choix, de son identité.
La thèse que soutient Michel Ragon est double. D'un côté, ce n'est pas pour défendre le trône et l'autel, le roi et l'église, que les Vendéens se révoltent, mais bien pour protester contre une révolution à laquelle ils ont cru avant qu'elle ne les déçoive. Pas d'allègement fiscal, pas de redistribution des terres, qui sont au contraire accaparées par quelques bourgeois. Pas de prétendue égalité, puisque si l'armée révolutionnaire lève 300 000 hommes dans toute la France pour défendre les frontières, les bourgeois, eux, peuvent acheter un remplaçant qui ira se faire massacrer à leur place. Plus fondamentalement, ce que Michel Ragon cherche à démontrer, c'est que deux conceptions de la liberté s'opposent lors de ces insurrections. Je le cite, « une conception populaire, sentimentale, pré-romantique de la liberté. La liberté communale contre le pouvoir centralisateur, la liberté religieuse contre la laïcisation obligatoire, j'y arrivais. La liberté de la langue, le patois contre le français administratif. À l'opposé, les républicains combattent au nom d'une idée abstraite de la liberté, héritée des Lumières, fondée sur la raison et la vertu, au nom desquels ils instaurent cette aberration que représente la dictature de la liberté. C'est là le malentendu fondamental, renforcé par un antagonisme de classe. Si bien que ceux qui, depuis Paris, écrivent la grande histoire de la Révolution, ne comprennent pas ces paysans ignares et contre-révolutionnaires. Si bien que, dans le bocage, on ne comprend plus les épisodes d'une révolution qui se contredit et se trahit elle-même à mesure que le temps passe. Les Mouchoirs rouges de Cholet racontent en effet la Vendée d'après la guerre de 1793, lorsque la Première République voit se succéder quatre constitutions, le Directoire, le Consulat, puis l'Empire, puis la Restauration, puis l'Empire à nouveau pour quelques jours, puis de nouveau la Monarchie. De quoi s'y perdre ?
Au village, personne ne comprend plus rien. On croyait être débarrassé de Buonaparte, et le voilà qui ressort comme d'une boîte à malice. On avait un roi, il est déjà parti. Le duc d'Angoulême aussi, et toute la famille. Mais La Roche-Jacquelin et Charette sont revenus. On les croyait morts. On ne sait plus. Tout s'embrouille. Le maire Meunier s'interrogeait, devait-il une fois de plus retourner sa veste ? Et de quelle couleur la mettre ? Au bourg, le drapeau blanc enlevé du clocher et remplacé par le drapeau tricolore avait été ramené par des inconnus, réenlevé, remis. Prudemment, au village, le curé aux bougies ne hissa pas de drapeau sur son église. Chacun tenait à son bout de vigne et le moment venait de la labourer et de la tailler. Les travaux de la terre n'attendent pas que l'histoire se mette en place. Et l'histoire n'oublie pourtant jamais les hommes qui voudraient l'oublier.
Alors, sur un mode ironique, Michel Ragon souligne les temporalités différées entre la chaotique histoire révolutionnaire et le temps cyclique de la terre, de la paysannerie. Mais il rappelle aussi par là comment l'histoire, par des détails d'une importance parfois capitale, s'invite dans la vie des pauvres gens. Les premiers chapitres du roman sont en effet consacrés à la reconstruction du village après les massacres, alors que les habitants du bocage, je le cite, recommencent l'histoire du monde. Après l'hécatombe, la communauté villageoise doit en effet penser les stigmates de la guerre, se réorganiser. Il fallut tout réinventer, il fallut tout reconstruire, il fallut tout réapprendre. Cependant, comme on vient de l'entendre, l'histoire n'oublie jamais les hommes qui voudraient l'oublier. La guerre de Vendée connaît ainsi des soubresauts. En 1799-1800, Dauchagne repart en campagne avec le baron qu'il avait sauvé pendant la Grande Guerre et avec qui il s'est lié d'amitié. Cette fois néanmoins, ce sont les aristocrates contre-révolutionnaires qui viennent chercher les paysans pour se battre contre le Directoire. C'est la troisième guerre de Vendée, une défaite cuisante pour les royalistes. Puis, en 1815, à nouveau, commence une quatrième guerre de Vendée avec le retour de Napoléon. Cette fois, Dauchagne refuse de suivre le baron dans cette guerre qui n'est pas la sienne. Mais le forgeron du village chante en hiver, rescapé comme Dauchagne de la première guerre et alcoolique notoire, eh bien chante en hiver, s'engage dans le conflit et emmène avec lui l'un des fils de Dauchagne, surnommé Monsieur Henri, en référence à Henri de La Roche-Jacquelin, chef de l'armée vendéenne pendant la première guerre. Le bataillon de chante en hiver et de Monsieur Henri, qui du haut de ses 13 ans officie comme tambour dans l'armée, connaît des déconvenues dans ce qui apparaît rapidement comme une mascarade militaire. Car Michel Ragon se souvient de Marx. Quand les grands événements se répètent, c'est la première fois comme une grande tragédie et la deuxième fois comme une farce sordide. Il livre alors le seul récit de bataille du roman, mais sous la forme d'une scène grotesque.
Le 18 juin, jour de la bataille de Waterloo, Chante en hiver et sa troupe, intégrée à l'armée d'Auguste de La Roche-Jacquelin, le Balafré, entrait à Thouars, bousculant les impériaux. Toute la nuit, les Vendéens firent bombance, vidant les caves, pillant les boulangeries, les boucheries, les épiceries. Ils tentaient de rattraper en une nuit 20 ans de disette et quelques siècles de famine. Quand les hussards arrivèrent le lendemain à l'aube, ils n'eurent aucune peine à sabrer les sentinelles qui cuvaient leur trop-plein de vin d'Anjou. Chante en hiver, affalé dans l'entrée d'une porte cochère, ouvrit juste les yeux pour voir apparaître l'éclat du sabre des hussards et remarquer M. Henri, debout, empêtré dans les sangles de son tambour, tombant sous les chevaux et comme recouvert d'un suaire rouge. Chante en hiver eut beaucoup de peine à se relever. Il se traîna à genoux dans un recoin de la porte pour vomir et s'y endormit. Ce qui prouverait, si besoin était, qu'il existe un bon Dieu pour les ivrognes, puisque lorsqu'il se réveilla quelques heures plus tard, les hussards étaient repartis et qu'il se trouvait seul vivant parmi des morts tailladés à coups de sabre. La rue était rouge. Des blessés geignaient doucement. De temps en temps, l'un d'eux hurlait. Chante en hiver, hébété, s'avança vers les cadavres, reconnut celui de M. Henri, puis celui de son fils adoptif. Le tambour était crevé. M. Henri conservait son visage de jolie fille. Chante en hiver fut épouvanté. Ce qu'il ne savait pas et ce qu'il ne saurait jamais, c'est qu'au même moment, dans la plaine de Waterloo, Napoléon, contre lequel il s'était insurgé et au nom duquel venait de s'accomplir cette tuerie inutile, Napoléon, lui aussi, regardait les débris de son armée.
Plusieurs éléments me semblent intéressants dans cette scène à la fois sordide et terrible. Tout d'abord, la mise en parallèle de la détresse individuelle et de la grande histoire, qui se joue toujours sur plusieurs fronts simultanés, où s'observe la même débâcle de l'humanité. Ensuite, Michel Ragon reprend une image d'Épinal de la Révolution, celle des enfants Bara et Viala, dont vous avez peut-être déjà entendu les noms dans le chant du départ de Chénier, qui date donc de 1794. Je cite « De Bara, de Viala, le sort nous fait envie, ils sont morts mais ils ont vécu, etc. » Il s'agit de deux enfants de 13 ans, enrôlés dans les troupes républicaines, où ils sont tambours, et qui sont tués par les contre-révolutionnaires. Robespierre fera de l'enfant Bara un héros de la Révolution et de la République. Monsieur Henri en est clairement le pendant vendéen, victime innocente d'une guerre absurde. Dans le récit de ce massacre, dont Michel Ragon nous épargne les détails en adoptant le point de vue aviné de Chante en hiver, on retrouve l'antimilitarisme de l'auteur, mais aussi une autre de ses préoccupations, la dénonciation de l'alcoolisme, qu'il estime être un des fléaux de l'Ouest. C'est un thème récurrent dans le roman, l'alcool, qui gangrène les sociétés rurales, qui désorganise les communautés, qui rend les hommes bêtes, méchants et violents. Les mouchoirs rouges de Cholet, loin d'encenser un monde paysan idéal, rencontrent des dérèglements des sociétés rurales, du dénuement, des pratiques délétères dans les soins apportés aux enfants, de la violence et de la misère. S'il écrit de très belles pages où pointe un certain lyrisme, il n'entend pas encenser la vie rurale, simple et saine, comme on la trouve parfois décrite dans les romans du terroir. Tout en faisant œuvre littéraire, Michel Ragon poursuit une ambition ethnographique, sans concession. Alors je vous propose d'écouter le très beau passage qu'il consacre à la description de la condition paysanne à l'occasion de l'installation d'un jeune couple dans leur propre métairie.
Victorine et Victor se retrouvèrent seuls, heureux de l'être, mais en même temps envahis par le sentiment poignant de leur abandon, loin de tout village, de toute autre ferme, seuls dans la clairière paisible de leur défrichement, dans ce silence des champs qui est en même temps une victoire sur l'effroi ancestral des malfaisances. Ils se tenaient tous les deux par la main, anxieux et graves, sachant bien que le travail du paysan n'est qu'une longue lutte impossible du nécessaire ordre champêtre dans un monde de désordre, qu'ils allaient tenter de mener dans la solitude d'un espace dont ils connaîtraient toutes les traces une existence immobile, environnée de violence et d'inexprimable, que leur vie recluse n'aurait d'autre horizon que ces haies où nichaient les oiseaux, les belettes et les renards, que l'hiver, les chemins creux submergés d'eau les couperaient de tout lien avec le village, avec le bourg, avec leurs parents, qu'ils ne recevraient plus aucune nouvelle, ni du monde, ni des leurs, qu'ils ne devraient compter que sur eux-mêmes pour vivre et déjouer la misère et la mort.
Déjouer la misère et la mort, surmonter l'effroi des malfaisances, c'est là la lutte pour la survie des petits paysans. Ce monde rural impitoyable, où la mortalité infantile est élevée, où les enfants ne sont pas scolarisés, où la famine guette, Michel Ragon le décrit sans angélisme ni misérabilisme. C'est là la grande force de ce récit, il me semble, qui doit d'ailleurs beaucoup au point de vue adopté par le romancier. Il ne mène pas la narration d'un point de vue extérieur, à la façon d'un naturaliste, d'un Zola, qui étudierait les mœurs paysannes. Il ne passe pas par le truchement d'un étranger érudit qui décrirait une réalité étonnante. Il se place du point de vue de Dauchagne et des habitants du village, dont la perception du monde est conditionnée par des croyances ancestrales, des systèmes de représentation et de valeurs sur lesquels le narrateur se garde bien de porter un jugement. Ce qui ne veut pas dire que le récit gomme tout antagonisme, tout débat d'idées. Il met par exemple en scène un sabotier de la Gâtine, artisan miséreux installé au village, qui a tout de l'autodidacte libertaire. Ce personnage permet à l'auteur de mettre à distance certaines pratiques, certaines coutumes, dont il s'agit de montrer la violence intrinsèque, ce qui lui permet aussi de souligner la lenteur de l'évolution des mentalités paysannes, leur résistance aux idées subversives. C'est d'ailleurs pourquoi ce monde rural est sur le déclin. C'est pourquoi les mouchoirs rouges de Cholet sont aussi le récit de la fin du monde paysan. Pourtant, les premiers chapitres du roman se teintent d'une coloration utopique, comme si la reconstruction du bocage vendéen après les massacres permettait la réalisation d'une utopie collectiviste. Je cite le roman, « Il n'existait plus de propriété individuelle. Les métayers n'avaient plus de maîtres, ni les fermiers de propriétaires. » Toute la population du village participait à ces relevailles. Plus loin, le village s'unissait pour des travaux collectifs qui se transformaient vite en fêtes. Mais bien vite, les propriétaires reviennent, réclament leurs terres et leurs biens, mettent fin à cette organisation sociale précaire où les paysans retrouvaient leurs instincts anarchistes. Ce qui caractérise le début du XIXe siècle, de cette nouvelle modernité, c'est avant tout l'expansion de la propriété privée et le rassemblement des terres dans de grandes exploitations d'où sont chassés les bordiers, les fermiers, les métayers. Cette nouvelle ère capitaliste, appliquée au monde agricole, se traduit par une appropriation des terrains communaux par quelques grands propriétaires terriens, ce qui plonge les paysans dans une misère encore plus grande.
Les bordiers trop pauvres pour disposer d'une pâture ou mener leur seule vache, les journaliers dont la femme tentait d'élever une chèvre ou un mouton sans posséder aucune terre, tous ceux qui subsistaient en marge des fermes et des métairies recouraient aux communaux. Les communaux étaient des lieux sans maître, des friches, des terrains incultes, parfois des bois. Chacun pouvait y mener paître son bétail. L'herbe peu riche ne pouvait y engraisser les animaux. Mais ils y trouvaient un minimum de nourriture qui concédait aux pauvres leur minimum de vie. Ceux qui, comme Dauchagne, vécurent les premiers temps du village ressuscité, disaient qu'alors tout le village et tous les champs formaient des communaux, puisque, au sortir des cages dans la forêt, ce qui appartenait à chacun appartenait à tous, et ce qui appartenait à tous appartenait à chacun. Peu à peu, les communaux se réduisirent à quelques bordures de chemin, à des terrains si hérissés d'ajoncs que les chèvres elles-mêmes n'osaient s'y aventurer, ou encore à des bourbasses, ces sols mous, vaseux, où la boue liquide, souvent profonde, n'est qu'un piège où l'on s'enlise. Bordiers et journaliers sans pâture n'avaient plus qu'à vendre leurs bêtes qu'ils ne pouvaient plus nourrir. Ceux qui ne réussirent pas à se placer chez des métayers ou des fermiers n'eurent d'autres ressources que de partir. Le surplus du village, se déversant dans les bourgs, devint bientôt tel que la moitié de leur population mendiait. Alors les bourgs eux-mêmes refoulèrent ce déchet qui se retrouva sur les grands chemins menant au chef-lieu de canton.
Commence ainsi le grand exode rural qui marque le XIXe siècle, vidant les campagnes et produisant une main-d'œuvre servile pour l'industrie urbaine en pleine expansion. Avec la disparition de ces espaces voués à la collectivité, c'est un monde rural anticapitaliste qui disparaît, tandis que s'ouvre l'ère moderne, industrielle et donc capitaliste. Michel Ragon a à cœur de faire de cet épisode historique, donc des guerres de Vendée, le moment charnière de l'entrée dans la modernité. Cela se traduit dans les mouchoirs rouges de Cholet par la désintégration du monde paysan avec l'expansion des grandes exploitations. Sur le plan politique, cela coïncide avec la création de l'État moderne, centralisé, coercitif. Michel Ragon fait de la répression de l'insurrection vendéenne de 1793 le crime matriciel à l'origine de l'État moderne, le modèle des répressions politiques à venir. Je laisse Martine lire un extrait du prologue de 1793, l'insurrection vendéenne ou les malentendus de la liberté, où vous entendrez cette mise en perspective historique.
Le monde moderne commence en 1793 par un bain de sang et un flot de paroles vaines. Et nous ne sommes jamais sortis de cette terreur idéologique. La dictature napoléonienne ne fera que la prolonger. Napoléon, lui aussi, prétend donner la liberté à l'Europe entière qu'il saccage. Les dictatures marxistes et fascistes, en vers et en droit d'une même médaille, l'actualiseront au XXe siècle. La lutte à mort entre les factions en URSS, la rivalité entre Staline et Trotsky, semble souvent n'être qu'une sinistre parodie de la tragédie qui vit en 1793 en France, s'affronter girondins et jacobins, dantonistes et robespierristes. La Convention invente la guerre nationale et le patriotisme. La Vendée réplique en inventant la guerre révolutionnaire. Au nationalisme, la Vendée répond par la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. La postérité de l'insurrection vendéenne, c'est Kronstadt, Macnau et Durruty. C'est aussi la Hongrie de 1956, l'Afghanistan de 1979, la Pologne de 1981. Ces guerres révolutionnaires contre des États qui se sont institutionnalisés révolutionnaires sont partout, non pas des contre-révolutions, mais l'expression d'une autre conception de la révolution. Une révolution plus plébéienne, plus réellement démocratique. Révolution populaire rurale contre révolution bourgeoise des villes. L'insurrection vendéenne présentait donc le paradoxe d'un peuple qui se dressait contre la révolution faite en son nom. Ce paradoxe, incompréhensible pour Michelet, est aujourd'hui largement explicite. Ce ne sont pas les révolutionnaires professionnels de l'Europe de l'Est qui ont libéré leur pays de la tutelle russe, mais l'explosion de la fureur populaire.
Alors ce passage, il est publié donc en 1792. Hein. Et comme vous le voyez, le tableau est assez désespérant. On a une nouvelle ère étatique fondée sur le massacre des Vendéens, mais qui trouve cependant un pendant positif. L'insurrection vendéenne est pour Michel Ragon une révolte populaire qui en annonce d'autres. Victorieuse cette fois à renverser des États totalitaires, fussent-ils prétendument révolutionnaires. La pensée révolutionnaire et libertaire de Michel Ragon sous-tend donc ces deux publications qui subordonnent la grande histoire officielle au récit des existences populaires, celles qui font les insurrections, qui renversent les régimes d'oppression. Et qu'importe si cette histoire est celle des vaincus, elle n'en est que plus belle, que plus légendaire. Je voudrais, pour finir, évoquer un dernier élément de ce récit dont il nous reste à vous raconter la fin. Revenons donc à Dauchagne et au bocage vendéen. Exilé pendant la Révolution, le comte, propriétaire des terres où s'est installée la famille de Dauchagne, revient sous le directoire et entreprend de réformer la culture des terres, aidé de ses régisseurs sans scrupules. Il nomme Dauchagne à la tête d'une métairie qui s'étend progressivement, nécessitant de plus en plus de bras pour l'exploitation agricole. Or, il se trouve que de plus en plus de paysans se retrouvent sans terre, sans emploi. Dauchagne les accueille chez lui, les recueille, puis les embauche sur les terres qu'il a charge d'exploiter. Mais un jour, en discutant avec le baron, il prend conscience de sa compromission à un nouvel ordre d'exploitation.
La dernière entrevue de Dauchagne avec le baron lui barbouillait le cœur. Il comprenait enfin qu'il s'était laissé prendre dans les raies du régisseur du comte et que sa docilité n'était pas innocente, car en échange, il échappait à la misère. Quel chemin depuis la sortie de son chêne à demi nu jusqu'à cette grande métairie qu'il dirigeait maintenant, insidieusement transformé en laboureur que les valets appelaient maître, il en éprouvait une fierté qui l'aveuglait. Maître Dauchagne. Depuis sa discussion avec le baron, il lui apparaissait que maître Dauchagne n'était lui aussi qu'un valet, le valet du régisseur, valet lui-même du comte, et ce comte que l'on ne voyait jamais, peut-être lui-même valet du roi, et le roi, valet des pâteaux qui continuait à tirer les ficelles du fond de l'enfer. Dochang avait envie de vomir. Il se sentait soudain très las. Il se sentait soudain très vieux. Il ne devrait être que quadragénaire. Mais qu'importe, on a l'âge que l'on ressent. Et depuis la mort de Louis XV jusqu'à cette année 1820, il semblait bien à Dochang qu'il avait vécu plusieurs siècles. Il se voyait sous un autre jour qui l'effrayait. Il avait cru sauver les Bordier et Métayer en détresse, et en fait, le régisseur se servant de lui ne les étranglait que plus aisément. Avait-il été vraiment dupe? Ne s'était-il pas laissé aller, poussé par ce vieil instinct de rapacité de la terre offerte, de cette terre soudain agrandie, de ce vaste espace à exploiter que lui offrait le comte? Bien sûr, la terre ne lui appartenait pas, mais la vraie possession de la terre tient moins dans les livres des notaires que dans la main de celui qui la travaille, qui l'ensemence, qui en récolte les fruits. Son esprit profondément religieux lui révélait son péché. Le régisseur réincarnait le malin, le tentateur qu'il n'avait su deviner. Se laissant glisser dans le péché de convoitise, celui-ci l'avait mené tout naturellement au péché d'orgueil. Il fallait qu'il se ressaisisse.
Cette prise de conscience de Dochang, idiot utile d'un patron exploiteur, d'un ordre capitaliste, d'un État tout-puissant, me rappelle le malaise de Fred Barthélémy dans La mémoire des vaincus, lorsqu'il admet qu'il sert en Russie une révolution dévoyée. Il y a là, je crois, un thème politique fort chez Michel Ragon, quoique assez commun chez les penseurs libertaires, la peur de la compromission, la mauvaise conscience du militant anarchiste de bonne volonté, qui craint que le confort, l'habitude, la vieillesse peut-être, ne le conduisent à participer ou pire à reproduire des systèmes d'oppression. Ce à quoi, de fait, beaucoup de militants n'échappent pas. Dès Les mouchoirs rouges de Cholet, on voit se manifester ce pessimisme politique, garde-fou critique nécessaire, qui en même temps semble condamner les anarchistes à rester dans les angles morts de l'histoire officielle, à nourrir la mémoire des vaincus. Fort heureusement, le roman de la Vendée post-insurrectionnelle se termine sur une note plus positive, dans un tableau final qui m'évoque la couverture de la mémoire des vaincus que vous avez ici. Car Dochang se ressaisit, reprend le contrôle de sa vie et emmène avec lui sa famille et celles et ceux qui font le choix de le suivre pour fonder une nouvelle communauté dont l'histoire appartient à la légende.
Le dernier jour de septembre, une caravane de charrettes quitta le village en direction du sud. En tête s'avançait une limonière attelée à deux bœufs, conduite par Victor. Suivaient les carrioles des métayers et des bordiers qui accompagnaient Dochang. Les vieux, les malades, les tout-petits-enfants s'y entassaient, juchés sur les coffres, les cages à poules, entre les ustensiles de cuisine en fer, les poteries, les quenouilles et les rouets. Les adultes allaient à pied le long des voitures. Dochang, le petit Jean sur ses épaules, Arsène le troisième accroché à sa culotte, se sentit soudain heureux comme il ne l'avait plus été depuis bien longtemps. Il amenait son arche vers un nouveau village qu'il espérait fonder dans le sud, aux confins de la plaine et du marais, entre les blés et les herbages. Dochang se mit à chantonner un vieil air qui lui revenait, une de ses chansons chemineresses de sa jeunesse. Puis il chanta avec plus d'assurance, de plus en plus fort. Dans leur limonière, Louise et Victorine se dressèrent pour le regarder, étonnées de voir Dochang, qu'elles n'avaient jamais entendu même fredonner, retrouver soudain ses chansons.
Merci de votre attention.